Table en large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture avec Antoine Guillot.
Plan large sur quelques cinéphilies productives ce samedi avec Pierre Chevalier et Nicolas Boukrieff. On évoquera aussi l'œuvre sulfureuse de Valerian Borovchek à ne pas mettre entre toutes les mains. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un plan large dédié aujourd'hui à un grand homme de radio et de télévision, Jean-Christophe Averty, dont on vient d'apprendre avec beaucoup de peine qu'il vient de nous quitter à 88 ans. À vos cassettes, une fois n'est pas coutume et au risque d'embarrasser nos invités, on avait envie de lever le voile aujourd'hui sur la raison de leur présence ici. Rien de moins que l'envie urgente d'exprimer une gratitude pour le désir produit et le plaisir reçu pendant 12 ans et plus de 350 films. Produit, Pierre Chevalier a été au sein de l'unité fiction d'Arte France le grand et discret maïeuticien du jeune cinéma français et international des années 90. C'est à la télévision, dans cette petite case, que le cinéma a trouvé à se déployer et que certains cinéastes confirmés ont même signé leur meilleur film. 10 ans après le MoMA à New York, la Cinémathèque française lui rend enfin hommage et nous avec. Au même moment, dans la même période à Canal+, Nicolas Boukrieff prolongé pour la programmation de films et leur présentation par l'accompagnement à l'écriture et la production, le geste critique qu'il avait exercé pendant 8 ans au sein de Starfix, la revue phare des années 80, où toute une génération, dont votre serviteur, s'est formée au décloisonnement cinéphile ou comment aimer tout le cinéma, de Claude Miller à George Miller, ou en ce qui me concerne, de Romère à Romero. Nicolas Boukrieff, après les avanies dues à la sortie empêchée de son précédent film Made in France, revient avec La Confession, une nouvelle et très bonne adaptation du prix Goncourt 1952, Léon Morin, prêtre, de Béatrix Beck, une histoire de foi, de désir et de résistance, formidablement incarnée par des comédiens qu'on n'attendait pas là, Marine Wacht et Romain Duris. Est-ce pour exprimer sa gratitude envers le désir stimulé et le plaisir provoqué par l'œuvre singulière de Valerian Borovchek que Mathieu Macheret a choisi de nous en parler aujourd'hui? Il passera à La Confession en fin d'émission pour évoquer le cinéaste et plasticien honoré en ce moment d'une rétrospective au Centre Pompidou et d'un très riche coffret DVD Blu-ray.
Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло.
Si comme nous, les comédies musicales soviétiques vous mettent en joie, ne ratez pas du 6 au 14 mars le 3e festival du film russe à Paris. Des films rarement ou jamais distribués, un centenaire de révolutions en film, à l'occasion évidemment des 100 ans des révolutions de 1917, et donc ces petites pépites que furent les comédies musicales en URSS, dont cette Ivan Vassilievitch change de profession de Léonid Gaïdaï. C'est dans 4 cinémas parisiens, le Balzac, le Grand Action, le Max Linder et le Christine 21. Dans les sorties de mercredi dernier, dernier, une fois que vous aurez plongé dans la Californie de 1979 avec 20th Century Women, dont nous parlions avec Mike Mills la semaine dernière, ne ratez pas deux très intéressants films venus du Proche-Orient. Personal Affairs de la palestinienne Maa Hadj, variation sous forte influence d'Elias Souleyman, même humour à froid sur l'ennui quotidien en Palestine. Et puis le premier film d'un cinéaste libanais, Vach Boulgourdjian, né en 1975, l'année du déclenchement de la guerre civile, est parti en 1990 aux États-Unis, juste avant qu'elle ne s'achève. Tramontane suit les pas d'un jeune musicien aveugle qui découvre, en voulant partir en tournée à l'étranger, qu'il n'est pas celui qu'il croyait être. Il part à travers le Liban à la recherche de ses origines et d'une vérité évidemment introuvable sur le conflit. C'est le sujet de prédilection du jeune cinéma libanais, de Hassan Salab à Johanna Ditoma et Khalil Jorej, tenter de reconstruire une mémoire collective au pays du déni et de l'impensé avec les armes du cinéma et de la fiction. Vach Boulgourdjian au micro de Pascaline Bonnet.
I think that the cinema is an opportunity to.
Je crois que le cinéma est une
is an opportunity,
opportunité
to examine
de s'examiner. Hein.
There's a great quote from the author Don DeLillo.
Et il y a Don DeLillo qui dit quelque chose de très intéressant.
Film allows us to examine ourselves more than
les films nous permettent
in ways that earlier societies could not.
De nous examiner d'une manière que les sociétés antérieures n'ont pas permis.
Examine ourselves, imitate ourselves, reshape our
nous examiner et également refaçonner notre réalité.
So, the cinema plays an incredibly important
et donc pour moi, le cinéma joue un rôle social absolument essentiel.
And so, I hope this will not again. This is not any type of statement.
Et je me répète, bien sûr, il ne s'agit pas de faire avec ce film une quelconque déclaration, mais ce film vise à être en fait une invitation au dialogue entre les différents spectateurs. Hein, et
I think that the fiction was inevitable. Fiction allows
je crois que la fiction était inévitable ici. La fiction, ça nous ouvre un espace pour la poésie.
Vach Boulgourdjian au micro Pascaline Bonnet avec une traduction de Pascal Fougère. La fiction nous ouvre un espace pour la poésie. Ça aurait pu être votre credo, Pierre Chevalier, à l'époque où vous dirigiez l'unité fiction d'Arte France.
Oui, cela dit, bon, c'est un temps ancien. Hein. C'est un temps, en effet, où on lisait des poèmes. Je suis entré à Arte en 91, donc c'était il y a très, très, très longtemps. Et je connaissais malheureusement pas grand-chose à la télévision, un tout petit peu plus au cinéma grâce au Centre National de la Cinématographie, où j'ai servi pendant 8 ans. Et c'est vrai que c'était une époque finalement où on prenait du temps, où il n'y avait pas d'urgence absolue, mais les réalisateurs, eux, c'était dur. Parce que dans le cadre de l'économie cinématographique d'alors, certains ne pouvaient plus tourner. Je prends l'exemple de Benoît Jacquot, de Jacques Doyon, de Garel. C'était quand même très difficile de tourner des financements. Moi, je suis arrivé à la télévision sans aucun préjugé et, à vrai dire, en me fichant un peu de la frontière cinéma-télévision. Voilà, c'était le principe de départ.
C'est ce que Jérôme Clément vous avait donné comme feuille de route, le président d'Arte, alors, quand il vous fait rentrer en 1991 pour diriger cette unité fiction. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'unité fiction et cinéma n'étaient pas encore séparées.
Exactement, elle n'était pas séparée. Elle était gérée par Georges Goldenstern, qui a fait un travail remarquable. Et Jérôme Clément a pris le parti d'affirmer l'existence d'une unité fiction. Mais il m'a dit en effet, écoute, fais de la télévision, mais avec ton carnet d'adresses de cinéma. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est... La feuille de route était très simple. Par bonheur, je connaissais quelques noms du cinéma que j'avais fréquenté à la commission d'avance sur recette et au service des aides électives. Et donc, je les ai appelés. Ils sont venus aussi. Et on a essayé de travailler ensemble. Et dès le début, d'ailleurs, par l'affirmation de deux petites collections de télévision, Tous les garçons et les filles de leur âge et Les années lycées, nous avons fait appel à principalement des cinéastes.
Alors, on va en parler. Pour connaître votre parcours avant d'arriver à Arte, je renvoie au très émouvant et très passionnant et très romanesque livre d'entretien que vous avez accordé au producteur Philippe Martin, Pierre Chevalier, L'homme des possibles, comment on passe de l'appartement de Gilles Deleuze où vous faisiez où vous jouiez les babysitters jusqu'aux divers centres du cinéma, des lettres, centre Pompidou et autres. Donc voilà, vous produisez des films de 91 à 2003, 260 réalisatrices et réalisateurs, 516 heures de programme, plus de 350 films, dont 76 sortent en salle, ça on va en parler. Mais avant, petite piqûre de rappel, petit voyage dans votre œuvre, Pierre Chevalier, voyage orchestré par notre réalisatrice Somanina. Arriverez-vous tous à les reconnaître?
Cher père, tu seras un peu surpris, peut-être même inquiet, de recevoir une lettre de moi. Je me presse donc de te dire que tout va bien. Et j'espère qu'il en est de même pour toi.
Alors, qu'est-ce qui devient?
J'habite avec un garçon pas loin. Et toi?
Moi? Ouais. Toujours pareil, tu vois.
Je suis un PD. Je suis un PD. Je suis un PD.
Rien de plus original à dire, toi.
Bah, tu vois, t'as un vrai parisien, on peut plus critiquer, tu prends tout le monde de haut.
Je te prends pas de haut, mais ça te dit de sortir des clichés, de dire des conneries, de passer pour un beau, fais un plouc.
Un beau, fais un plouc, attends, je préfère un beau, fais un plouc, t'as plus l'air de ce truc.
Veuillez excuser ma fille Michel, son père est mort. Elle est morte.
Vous êtes très beau aujourd'hui, mon frère. C'est l'amour. Je vous aime.
Jusqu'à ce que je te rencontre, tout était comme une prison pour moi. Je me sentais tout le temps enfermé, rabaissé. Et toi, tu m'as ouvert le monde entier. Quand je pense à ça, à la façon dont tu t'es ouverte à moi.
Aujourd'hui, tout le monde a peur de pas trouver de travail, de perdre son travail, de mettre des enfants au monde dans un monde qui a peur, de ne pas avoir d'enfants à temps.
C'est un idéal? Ouais, un idéal. Projection. Ouais, une projection. Projection de quoi, elle va me dire? Projection de ma main dans ta tranche de cake.
Il pleut sur Marseille, le port a jauni. Il pleut sur Marseille, Notre-Dame sourit.
Kasukai.
Alors, vous aurez peut-être reconnu dans l'ordre La vie sur Terre d'Abderrahmane Sissako, c'était dans la collection 2000 vues par, ensuite c'était Sabine de Philippe Faucon, puis Les roseaux sauvages d'André Téchiné, enfin j'aurais dû dire Le chêne et le roseau, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait dans la collection Tous les garçons et les filles de leur âge, ensuite c'était Ressources humaines de Laurent Canté, dans la collection Au travail, Portrait d'une jeune fille à la fin des années 60 à Bruxelles de Chantal Akerman, dans la collection à nouveau Tous les garçons et les filles de leur âge, Sauvage, et puis Beau Travail de Claire Denis, ça c'était dans une autre collection, Terres étrangères, Paula X de Léos Carax, là encore, je dois dire, Pierre ou les ambiguïtés, mini-série de 3 fois 60 minutes, Lady Chatterley de Pascal Ferrand, Lady Chatterley et l'homme des bois sur Arte, L'âge des possibles de Pascal Ferrand, c'était dans la collection Génération TNS, il y en a encore La vie ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky, c'était Petite sur Arte, dans la collection Les années lycées, et puis enfin Marius et Jeannette de Robert Guédiguian, Il pleut sur Marseille, et la musique qu'on entend en ce moment, c'est celle de Tsai Ming-liang, The Hall au cinéma, La dernière danse sur Arte, dans la collection 2000 vues par. Alors ce ne sont que 12 films sur les plus de 350 que vous avez produits, Pierre Chevalier. On peut les voir en ce moment même à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 20 mars, et on s'en réjouit, même si, sans fausse modestie, vous avez toujours plaidé à l'époque où vous produisiez ces films pour le droit à l'oubli. Vous revendiquiez le statut même poubelle, pour ne pas dire éphémère, de la télévision, Pierre Chevalier.
Oui, le droit à l'oubli, c'est important. D'ailleurs, ça me rappelle un film de Claire Devers sur l'histoire d'une jeune femme qui s'était fait arrêter parce qu'elle avait pris de la viande dans un supermarché. Et elle avait été condamnée. Et en appel aussi. Et on a fait un film sur elle. Et il y avait la fin du film de Claire faisait vraiment directement référence à ce fait divers et à cette jeune femme. Et cette jeune femme a plaidé vis-à-vis d'Arte le droit à l'oubli. Donc on a supprimé toute la fin du film. Et ça, je comprends ça très très bien. Donc je suis plus un homme d'oubli qu'un homme de mémoire, quoi. Et je trouve que c'est absolument nécessaire, l'oubli. Il y a bien sûr des lois mémorielles qui sont absolument indispensables pour ne pas oublier des atrocités. Mais tout de même, je trouve que la vie de chacun regarde chacun et que quand on s'en sert, ça doit être dans le respect de l'autre.
Alors, à l'époque, je dis toujours que vous avez produit ces films, mais vous préfériez dire que vous les coproduisiez.
Ah oui, tout à fait.
Vous faisiez appel à des producteurs qui étaient émergents aussi à l'époque. Oui. Carole Scotta et Corinne Benjo de Haut et Court pour la série 2000 vues par. Chantal Poupeau pour Tous les garçons et les filles de leur âge. Gilles Sandoz avec qui vous avez beaucoup travaillé. Humbert Balzan, évidemment. Il faut revenir peut-être sur le contexte de l'époque, parce que vous disiez que certains réalisateurs n'arrivaient plus à travailler, mais on était dans un cinéma français qui n'allait pas très bien. On avait d'un côté une grande chute de la fréquentation, de la part de marché des films français, et paradoxalement, des films très très lourds, financièrement parlant, qui se montaient.
Oui, c'était, une économie qui finalement faisait émerger surtout les blockbusters, quoi, qu'ils soient américains ou européens. Et c'est vrai que vraiment produire en même temps avec très peu de moyens, je trouve que ça a des effets directs sur la création. Produire uniquement avec l'avance sur recette, un avoir distributeur un peu fantôme, des petites recettes. Je trouve que c'est très difficile, quoi, pour les réalisateurs. Et de ce fait, d'ailleurs, il y a eu comme ça une surdétermination de la notion de film d'auteur. Je pense qu'à un certain moment, il y en avait beaucoup trop, quoi. Et que c'est vrai, moi, ma génération, je suis né en 45, elle favorisait la littérature. Si on avait un don, une certaine créativité, on allait plutôt vers le journalisme ou vers l'écriture. La génération des années, disons, 70, elle était tout de suite attirée par l'image mobile et l'image en mouvement. Et de ce fait, en effet, il y a eu beaucoup de films et peut-être que certains n'ont pas été absolument nécessaires.
Mais vous, ce que vous produisez à cette époque-là, ce sont beaucoup des jeunes réalisateurs, et vous leur donnez la liberté, la légèreté, pour le coup. Par rapport à un tournage de cinéma où on tournait à l'époque 10 semaines en moyenne, vous, c'est 23 jours, tout petit budget, et allez-y, quoi.
Exactement. C'est 23 jours au maximum, parce que Claire Denis a tourné Beau Travail en 18 jours, ce qui est absolument ahurissant, et en plus à Djibouti. Oui, le pacte avec les réalisateurs, c'était liberté éditoriale. Voilà, c'est vrai que celle-ci n'existait pas vraiment sur les autres chaînes, qui étaient plutôt consensuelles, traditionnelles et familiales. Et budget western. enfin pas Western Cinéma, budget vraiment minuscule.
Un Western à la Luc Moulet, quoi, plutôt. Hein.
Pardon ?
Un Western à la Luc Moulet dans Billy the Kid, à cheval.
Voilà, exactement. Et bon, les réalisateurs, évidemment, faisaient ça une fois, deux fois, mais pas plus. Hein. Ils retournaient vers le poids du cinéma, ce qui est absolument compréhensible.
Mais vous avez eu conscience, à ce moment-là, que vous créiez un style, malgré tout. On a parlé d'un style Arte à l'époque, à cause de ses conditions de tournage, de la jeunesse des réalisateurs, mais aussi de ces réalisateurs plus confirmés qui avaient du mal à tourner ailleurs, un style qui était à la fois nerveux, intimiste, une liberté de ton, une insolence aussi, une fragilité.
Non, vraiment, j'étais un peu inconscient. Et je crois qu'il fallait l'être. Parce qu'autrement, c'était trop de problèmes. Et à partir d'un certain moment, en effet, ça a été quand même très critiqué. Voilà, cette fonction téléfilm, film cinéma, ça a des effets pervers. Hein,
alors
aussi.
Voilà, ça, c'est le moment où vous ne vous faites pas que des amis. On ouais. a entendu certains, mais beaucoup des extraits des films sont des films qui sont sortis en salle. Marius et Jeannette, la même année, vous avez Marius et Jeannette et La femme défendue de Philippe Harel qui se retrouve au Festival de Cannes. Et là, ça commence à crisper.
Oh oui.
Et pourquoi ça crispait?
Les producteurs de longs métrages trouvaient que je travailler, nous travaillons, parce que j'étais pas seul, l'équipe de l'unité fiction était composée de 12 personnes, que nous voluions le cinéma. Voilà. Et que c'était pas normal que ces films aillent dans les festivals, qu'il y ait deux versions. Ça a beaucoup crispé. Surtout le monde de la production, mais de la production établie quand même. Hein, voilà, il a fallu traverser ça. Ça a été assez chaud à un certain moment.
Vous étiez favorable, vous, à la sortie des films en salle ou vous vouliez pas trop savoir ce qui se passait?
Moi, je crois que je voulais pas trop savoir. C'est-à-dire que l'essentiel, c'était de travailler, de faire, que des œuvres existent. Et puis, j'avoue que le reste, après le visionnage, avant le mixage, je déléguais tout ça à l'administrateur qui était formidable et qui s'en occupait très bien.
Parce que ce qui est paradoxal, c'est que si on met à part Marius et Jeannette qui fait plus de 2,5 millions de spectateurs en salle, la plupart des films étaient beaucoup plus vus à la télévision que lors de leur sortie en salle. Aux ressources humaines, par exemple, de Laurent Canté, j'ai regardé les chiffres, 150 000 spectateurs pour sa sortie en salle, 1,4 million de téléspectateurs. Alors, on peut aller encore plus loin. Le Petit Voleur d'Éric Zonka, 9 000 entrées en salle, et là encore, 1,5 million de téléspectateurs.
Oui, c'est un paradoxe, mais je crois que les cinéastes ont besoin d'une sortie salle. Pour eux, même si le public est moins nombreux qu'à la télévision, c'est tout de même la noblesse du cinéma, de la salle, de la distribution, des ventes à l'étranger. Et je crois que c'est nécessaire pour eux. Et si vous voulez, les chiffres que vous avez cités de fréquentation, d'audience de télévision, c'est pas tellement pris en considération par les réalisateurs. Ce qui compte pour eux, c'est la sortie salle.
C'est toujours le spectacle en salle. Comment est-ce que vous interveniez sur ces films? Vous étiez un producteur très interventionniste au niveau de l'écriture, du montage?
Tantôt. mais j'étais quand même plutôt interventionniste. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est le dialogue avec à la fois les réalisateurs, les producteurs, voilà. C'est vrai que voilà, j'étais associé à un projet dès l'écriture, la convention d'écriture, le casting, mais ça le casting, une expérience m'a fait dire qu'il fallait plus jamais s'en occuper, et je crois que c'était bien. Ensuite, le tournage, le visionnage des rushs, l'ours, un montage élaboré, et puis le visionnage avant mixage. Voilà. Mais c'était.
Vous étiez un producteur très présent, quoi.
Assez présent. Présent. Mais pas pour tous, hein, quand même. Hein. Mais vous savez, l'unité a coproduit 80 premiers films. Et c'est vrai qu'un premier film, c'est une épreuve, mais terrible, quoi. Et là, voilà, on est à côté, non pas tellement pour intervenir ou pour faire acte d'autorité, mais pour être avec, pour soutenir, pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est important, je crois. Et puis il y a des réalisateurs qui souhaitent le dialogue, d'autres moins. Donc il faut s'adapter à chaque fois. L'unité, parce que nous étions des livreurs, l'unité livrait 30 à 32 titres par an, soit 50 heures de programme par an.
C'est énorme.
Ah oui, c'était vraiment un artisanat complètement furieux là, vraiment. Mais c'était passionnant. Moi, je garde un souvenir époustouflant.
Et pourtant, quand vous quittez Arte en 2003, je crois que vous partez sur un sentiment d'échec.
Oui, je crois que c'est aussi la fatigue, l'épuisement. Ça n'a eu aucune conséquence finalement sur les autres télévisions, sauf Canal+ faisait la même chose.
Ça, on va en parler.
Et exactement. Mais les autres télévisions, ça les a pas fait beaucoup bouger et n'ont pas fait appel à des cinéastes ou à de très jeunes réalisateurs ou à des scénaristes aussi. Et donc ça m'a peiné.
Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en ce moment, et ça se fait beaucoup aux États-Unis, les cinéastes reviennent à la télévision. Oui. Il y a une époque où ils étaient tous, Hitchcock en particulier, les cinéastes reviennent pour faire des séries télévisées. Oui. Et alors, pendant que vous développiez ces films réalisés par des cinéastes, il se passait de l'autre côté de l'Atlantique la révolution des séries télévisées. HBO faisait Six Feet Under, faisait Les Sopranos, et vous ne partiez pas dans cette direction-là.
Non, c'était parce que je crois que j'étais pas prêt. Notre budget était quand même très limité. Ces séries, c'est un temps de travail extraordinaire. C'est un showrunner, c'est plusieurs scénaristes, c'est plusieurs réalisateurs. Donc l'unité n'était pas tellement capable d'entreprendre ce genre d'œuvre sérielle. Je le regrette beaucoup. Je crois aussi que c'était trop tard pour moi. Je suis arrivé trop tard.
Alors Nicolas Boukrieff, à l'époque où Pierre Chevalier œuvrait à Arte, vous étiez sur Canal+, à divers postes, vous présentiez et vous vous occupiez du journal du cinéma, après vous avez présenté le Mon Ciné Club sur Canal, vous étiez à Canal+, écriture, et après dans Esquad, une société de production filiale de Canal+. Comment est-ce qu'à Canal+, on observait ce qui se passait à Arte ?
Avec beaucoup d'intérêt. Ben forcément, c'est-à-dire que en fait on se disait qui est-ce qui ne signe pas qu'on peut signer, parce que nous on faisait du développement de scénario aussi, et comme le champ de Arte était quand même très large, évidemment on faisait sans doute le même travail, on allait voir les films de fin d'études de la FEMIS, on allait à la Cinémathèque voir des courts-métrages, des séries de courts-métrages, etc. Et souvent quand on repérait quelqu'un, on s'apercevait qu'il était parti signer chez Arte, ce qui était très heureux. Jean Nowinowski, Jean-Cédric Lapiche, je me souviens avoir vu Ce qui me meut au Festival d'Avoria, je me suis dit il faut absolument qu'on signe ce gars-là, hop, il est déjà signé chez Arte. Donc je dirais nous on allait sur un champ que Arte...
Rappelez que Le Péril Jeune, c'est un film Arte, au départ dans les années lycées, que Romain Duris joue son premier rôle, on va en parler de lui tout à l'heure, dans un film produit par Pierre Chevalier.
Absolument, donc il y avait un type de film sur lequel Arte n'allait pas spontanément, qui était plutôt les films de genre, les polars, les films fantastiques, qui était aussi un genre que moi personnellement, de par mon parcours cinéphile, j'adorais. Et donc là, on avait un champ de possibilités, les comédies un peu déjantées. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à signer, nous, Yann Kounen, Albert Dupontel, Radou, Miralle et Anou pour Train de vie, mais je pense que lui aurait très bien pu se retrouver chez Arte. Enfin voilà quoi, je pense que c'était un moment, je pense, très heureux pour les jeunes cinéastes, parce que je crois qu'entre au moins ces deux chaînes-là, il y avait un champ de possibilités, je dirais, de signer un développement déjà, un développement de scénario dans des conditions relativement... agréable, avec des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et non pas des gens sortis d'école de commerce comme il y en a beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y avait, ça a été peut-être un âge d'or pour les jeunes cinéastes, dont finalement on s'aperçoit qu'il y a toute une génération qui a profité, parce qu'il y a énormément de cinéastes à peu près qui ont entre 40 et 50 ans qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont passés par une de ces au moins de ces deux portes quoi.
D'ailleurs souvent un film qui était produit pour la case fiction sous forme d'unitaire ou au sein d'une collection, qui voulait avoir une version longue pour la sortie en salle, allait ensuite chez Canal+, pour chercher le complément de financement, ce qui provoquait aussi des frictions entre qui passe le film en premier à la télévision. Après, alors ce qui est assez amusant, Nicolas Boukrieff, c'est quand on regarde votre filmographie, si on se souvient de votre premier film, Va mourir, en 1995, sur des jeunes Vitelloni, on dira, du sud de la France, le film aurait pu tout à fait trouver sa place dans la collection Tous les garçons et les filles de leur âge. Et puis il se trouve qu'en ce moment, vous terminez une fiction pour Arte, d'après Jiro Taniguchi, le mangaka qui vient de mourir, Un ciel radieux. Vous faites une différence quand vous réalisez un film pour la télévision ou pour le cinéma ?
Non, j'en fais pas. En fait, j'ai été contacté par Isabelle Huish, qui est une élève, si j'ose dire, selon ses dires, hein, de Pierre Chevalier, qui visiblement a les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'elle est très présente, ce qui est agréable quand on aime le dialogue, ce qui est mon cas, assez ferme aussi. C'est à peu près la même définition que ce que vous venez de donner, mais c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé ce dialogue. En tout cas, j'ai trouvé ce dialogue presque plus précis par instant que ce que j'ai pu des fois rencontrer en cinéma. Et personnellement, moi, je ne fais pas la différence du tout aujourd'hui, parce que je pense que les habitudes ont changé quand même. C'est-à-dire que déjà, moi, je vois beaucoup de films en salle, mais je vois aussi énormément de films sur petit écran. Je vois énormément de séries sur petit écran, et je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux que quelqu'un voit un Stalker sur petit écran qu'il ne le voit pas du tout. Je veux dire, il vaut mieux découvrir Tarkovsky. Et d'ailleurs, il y a des films, je me suis rendu compte avec le temps, j'ai commencé à les rattraper des Hitchcock à l'Action Christine, et je me suis rendu compte qu'il y avait des Hitchcock que j'avais vus peut-être 5, 6, 7 fois en petit écran avant de les découvrir sur le grand écran. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus tellement faire de ce genre de différence. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire un film qui prend l'idée de l'image par le haut et pas par le bas. Voilà ce que, donc je pense qu'il y a des unitaires qui passent sur Arte qui sont bien plus dignes en termes de films que beaucoup de films qui sortent en salle. Voilà. Donc non, je sais pas cette différence. Et j'avais dit d'ailleurs à Arte, moi je vais vous faire un film pour la télé. Je vais pas vous faire un téléfilm, je sais pas faire. Il faut prendre un téléaste. Pour ça, j'ai beaucoup de respect pour cette forme. Mais moi, je fais des films. Donc le budget était plus petit. Mais alors, ça n'a aucune différence. Et je dois avouer que j'ai eu un dialogue avec une liberté, une liberté, je vais pas dire totale, parce qu'il y a un vrai dialogue, mais je n'ai pas rencontré de contraintes. Réel. J'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues avec Isabelle Huige, mais je n'ai pas eu de conflit d'aucune façon. Et avec ce truc qui est absolument formidable, c'est qu'une fois que vous êtes d'accord sur le projet, bah une chaîne de télé, quand elle dit oui, vous tournez. En cinéma, vous allez avoir un distributeur qui va dire oui, bon, c'est très bien, mais est-ce qu'on va avoir le diffuseur en clair ou est-ce qu'on va avoir Canal+? Et c'est quand même un long chemin avant d'être sûr que vous tournez. En télé, c'est clair. On s'arrête en cours de développement, bon, bah, c'est fini. Ou alors on dit oui, ça y est, on tourne, on le sait. Et ça, c'est absolument merveilleux.
By the hill, do the next thing that you feel. We were so in phase, in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do,
Nicolas Boukrieff l'a reconnu tout de suite, un extrait de la bande originale de Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin. On en avait parlé ici il y a 3 mois lors de sa ressortie en salle, comme beaucoup de confrères dans la presse. Or, je ne crois pas qu'il y a 30 ans, pour sa première sortie en 1986, les mêmes supports lui avaient accordé le même intérêt. Il y avait une revue qui avait consacré une analyse définitive de la poursuite en voiture de Police Fédérale Los Angeles, et William Friedkin lui-même, qu'il reconnaît dans son avant-propos au passionnant livre Le cinéma de Starfix chez Hors Collection, un livre sorti à la fin de l'année dernière. Très très gros succès de librairie, le premier tirage est déjà épuisé. Starfix, Nicolas Boukrieff, vous en étiez un des cofondateurs en 1982 avec Christophe Gans, Christophe Lemaire, Doug Headline, François Cognard et j'en passe, Mathias Sanderson. Vous en avez été le dernier rédacteur en chef avant l'interruption du titre en 1990. Ça vous fait quoi aujourd'hui de voir reconnaître comme des maîtres incontestables du cinéma les Friedkin, Peckinpah, George Miller, John Carpenter, David Cronenberg, Brian De Palma et tant d'autres que vous défendiez de façon très isolée dans les années 80. Vous auriez parié que Paul Verhoeven recevrait un César du meilleur film
Un César, je ne sais pas, parce qu'on ne pensait pas qu'il ferait des films en France, mais on était certains qu'ils avaient fini par être reconnus comme des auteurs. Simplement, nous, on avait 20 ans, on était des dingues de cinéma, et tous ces metteurs en scène n'avaient pas la place qu'on imaginait qu'ils devaient avoir dans les autres revues. C'est pour ça qu'on a créé une revue pour les défendre. Et on était tous dingues de cinéma, on voulait tous devenir cinéastes.
C'est vraiment une revue de futurs cinéastes dans votre tête à l'époque.
Très facilement, évidemment, avec toute l'arrogance qu'on peut avoir à cet âge-là, on se disait, on est les nouveaux cahiers. on va prendre 5, 6, 7 ans, on va faire comme les cahiers, on va dire, voilà, John Carpenter, Brian De Palma, Romero, Lars von Trier, les frères Cohen sont des auteurs, voilà, nous, nous le disons haut et fort, vous ne comprenez rien, vous comprendrez un jour, Friedkin, et puis après, hop, on va partir faire des films. Et c'est ce qu'on a fait, finalement. Après, les films, ça, c'est chacun d'en juger, mais il y en a qui sont devenus producteurs, d'autres qui sont devenus réalisateurs, d'autres monteurs, mais il n'y a quasiment plus aucun qui travaille dans la presse. Voilà, donc c'est une aventure passionnante, parce qu'on avait 20 ans, on vivait ensemble, je sais pas, 20 heures par jour. Mais vraiment, on se levait le matin, on allait faire notre journal. C'était, là aussi, c'est une chance, avec le recul, je me dis, c'est une chance inespérée quand on est cinéphile de pouvoir faire ça. Parce qu'aujourd'hui, peut-être faire un blog, mais le journal marchait très bien. On avait un vrai public très, très fan, très hardcore. Voilà, donc c'est vrai que là, quand on a fait ce livre plus pour dire, tiens, ça fait 25 ans que le journal a disparu. Si on faisait un livre hommage comme ça, plus pour nous retrouver, nous, et savoir si on avait un peu comme les Stooges quand ils se retrouvent, savoir si on avait toujours notre son quand on se mettait ensemble. Donc on a fait ce livre en rajoutant des textes d'aujourd'hui, en disant, tiens, est-ce qu'on peut toujours écrire et tout ça. Et puis on est les premiers surpris de voir que le livre est un succès de librairie parce qu'on pensait qu'on était resté dans notre niche toujours, en fait. Donc en tout cas, je suis absolument ravi de tous ces cinéastes aujourd'hui et la reconnaissance qu'ils méritaient déjà à l'époque.
Oui, alors, il y a un esprit qui perdure, non seulement parce que ces cinéastes, voilà, maintenant sont unanimement reconnus, mais aussi parce que vous aviez un esprit d'éclectisme très passionnant, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement à défendre le cinéma fantastique, le cinéma d'aventure, vous parliez aussi, dans la même revue, je parlais de Claude Miller tout à l'heure, on trouve un texte très, très fouillé sur Tess de Roman Polanski, on défendait Tarkovsky, on défendait Zulawski, on va en parler avec vous dans un instant, et puis vous interviewez aussi des directeurs artistiques, des chefs opérateurs.
Oui, absolument. Non, mais on était vraiment, on était à fond. Hein. Enfin, je veux dire, on a commencé à parler du clip, de la pub, en disant, mais il y a des metteurs en scène qui s'expriment là-dedans. Alors après, c'est des metteurs en scène qui ont été très contestés, mais n'empêche que Ridley Scott, c'est quand même un cinéaste important et qui a fait quelques chefs-d'œuvre. Donc, on était vraiment, on avait 20 ans, j'ai envie de dire. Et j'avais presque envie de dire la notion de critique. Je parle pas d'analyste du cinéma ou d'intellectuel ou de penseur du cinéma. Mais je me dis, mais finalement, les critiques, on devrait être critiqués entre 20 et 30 ans. Et puis, parce qu'il y a un moment donné où on commence à plus traverser, et d'ailleurs, quand on a arrêté le journal, on commençait à ne plus traverser Paris pour aller toujours dans la même salle de projection, pour voir le nouveau petit premier film ou les courts-métrages. On commençait à se fatiguer un peu, et on commençait à être un peu sur nos acquis, et à regarder du coin de l'œil des cinéastes émergents en se disant, est-ce qu'ils sont bons ou pas, etc. Je pense que ça devrait être renouvelé régulièrement, la critique cinéma.
Alors dans ce livre, il y a un très beau texte, dans ce numéro 91 posthume rédigé pour l'occasion, vous rendez hommage à Zulawski, vous l'appelez Sensei, le maître. Qu'est-ce qui vous a appris en termes de réalisation ?
Zulawski, il m'a appris énormément. En fait, je l'ai rencontré en tant que journaliste sur un tournage, et puis on a pas mal échangé, on a sympathisé. Et de là, je lui ai demandé à travailler avec lui, et j'ai travaillé avec lui pendant quelques années en tant qu'assistant. Une sorte d'assistant personnel, parce que la plupart des films qu'il développait ne se faisaient pas. Donc je m'arrêtais à 15 jours de tournage, et le film ne se faisait pas, ce qui était pour moi une grosse déception. Mais comme j'avais suivi deux de ses tournages en tant que journaliste, finalement, ça se complétait pas mal. Et en fait, quand on a fait ce livre, quand Zulawski est décédé l'année dernière, j'ai trouvé que les hommages qui lui étaient rendus étaient des hommages très people, au regard de sa vie privée, et qu'il y avait assez peu je lisais assez peu de témoignages qui parlaient de l'homme que j'ai connu. Donc je me suis dit, tiens, je vais écrire un texte, parce que je l'ai quand même connu pendant une quinzaine d'années, et il m'a appris vraiment les fondements de ce métier. Et donc j'avais envie de raconter cette aventure, en fait, et de dire à quel point cet homme-là pouvait être généreux. Et voilà quoi. Donc si vous me demandez ce qu'il m'a appris, c'est très compliqué. Il m'a appris beaucoup de choses. Je vais dire deux conseils que j'ai gardés. J'en ai gardé beaucoup, hein, qui me servent encore aujourd'hui sur mes plateaux. Hein. Le premier conseil qu'il m'a donné, qui m'a servi vraiment, qui me sert encore aujourd'hui, c'est quand il m'a dit on écrit ses scénarios, avant d'écrire ses scénarios avec sa tête, on les écrit avec son cul. C'est ce qu'il avait des expressions polonaises un peu particulières qu'il fallait décoder. Je la décode. Si on ne pose pas, si on ne s'assoit pas tous les matins devant son ordinateur, à l'époque ses machines à écrire, tous les matins, si on n'a pas un cul de plomb, comme il disait, on n'écrira jamais son scénario. J'ai commencé comme ça et ça m'a pris beaucoup de temps d'écrire mon premier scénario. Mais je m'asseyais tous les matins devant mon écran blanc, je n'avais aucune idée. Puis un jour, à force d'être devant cette page blanche, ça a commencé à se... Donc c'est le premier conseil que je donnerais à mon tour à un jeune cinéaste. C'est en ayant un cul de plomb, comme il disait, qu'on peut commencer à écrire. L'autre conseil qu'il m'a donné, c'est plus d'ailleurs un avertissement, c'est faire des films, c'est être seul. Et ça, c'est vrai. C'est incontestablement. Et une fois qu'on accepte cette idée, on n'en souffre pas du tout. Au contraire, on a plaisir à emmener d'autres personnes avec nous dans cette solitude, et on s'attend pas à être totalement compris, accompagné, materné ou paterné par son équipe, mais on sait qu'on est dans une aventure qui est très solitaire, dans laquelle on va avoir plein de gens qui vont marcher avec nous. Voilà.
Alors faire des films tout seul et accompagné, vous en avez fait depuis après Va mourir, il y a eu Le plaisir et ses petits tracas, des films noirs, des films d'action comme Le convoyeur, Cortex ou Gardien de l'ordre, et enfin Made in France sur ces jeunes djihadistes français, ce film qui vous a causé tant de soucis, mais comme vous êtes êtes un franc-tireur jamais là où on l'attend. Voici ce qui, de vous, sort mercredi prochain en salle.
Les Allemands les ont arrêtés en pleine nuit. C'est un voisin qui les a balancés.
C'est normal que vous soyez en colère. Je le serai à votre place.
Parce que vous, rien ne vous révolte ? Une petite messe, un peu d'eau bénite, et de Saint-Sacrement, et hop. Le tour est joué, n'est-ce pas ?
Ne soyez pas simpliste. Ça ne vous ressemble pas.
Non. Pas simpliste. Malheureuse. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, bien sûr. Votre bon Dieu vous met à l'abri du désespoir. Mais moi, comment je fais, puisque je ne crois en rien? Quand il y a des blancs dans la conversation, c'est pour laisser le temps au Saint-Esprit de vous souffler la réponse. C'est ça, monsieur l'abbé?
C'était la soirée, Barney. Je ne peux rien pour votre peine, sinon la partager.
Un extrait de La Confession, votre nouveau film, Nicolas Boukrieff. On en connaît le sujet, c'est celui de Léon Morin, prêtre, le roman de Béatrix Beck, prix Goncourt 1952, je l'ai dit tout à l'heure, déjà adapté au cinéma, évidemment, par Jean-Pierre Melville en 1961 et 30 ans plus tard, en 1991, à la télévision, on parlait de télévision tout à l'heure, par Pierre Boutron. Je rappelle quand même de quoi il s'agit, la rencontre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans une petite ville occupée par les Allemands entre une jeune femme marxiste et épouse esselée d'un prisonnier de guerre et d'un séduisant jeune prêtre qu'elle va d'abord défier avant de succomber à ses arguments théologiques, à moins que ce ne soit à ses charmes. C'est un projet que vous aviez en tête depuis 20 ans et que vous aviez développé en même temps que Made in France. On est dans un cinéma de genre, d'une certaine façon, c'est le mélodrame en costume. Ça pourrait surprendre ceux qui voyaient en vous un cinéaste de films d'action très doué. Et pourtant, là encore, vous utilisez donc le genre pour explorer des thématiques finalement pas si éloignées de Made in France. C'est les questions de religion, de foi, mais aussi de capacité à rencontrer l'autre, ce qui manquait certainement aux jeunes djihadistes de Made in France.
Bah oui, tout à fait. D'abord, le truc qui est marrant, c'est qu'on me dit souvent que c'est très surprenant que je fasse ce film, mais en fait, moi, je voulais le faire déjà avant Le Convoyeur. Donc après, j'ai fait Le Convoyeur, qui a plutôt bien marché, qui est un polar plutôt respecté aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Après, donc, comme ça avait marché, beaucoup de producteurs voulaient travailler avec moi. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? J'aimerais bien réadapter Léon Morin prêtre. Et aucun ne réagissait. Ils ont dit, ah oui, mais tu veux pas plutôt faire un bon polar? Donc je disais, bah oui, pourquoi? Bah oui, moi je veux bien faire un bon polar. Et donc de polar en polar, à chaque fois, je recevais mon Léon Morin prêtre, et ça n'intéressait personne. Et puis j'ai fini par rencontrer un jeune producteur il y a 3 ans qui a bien voulu le faire. Et aujourd'hui, tout le monde dit, ah, c'est bizarre, vous qui êtes metteur de polar, que vous fassiez Léon Morin prêtre. Mais c'est pas de ma faute. Bon, bref, ça c'est une première chose. Après, la seconde chose, oui, après Made in France, en fait, les deux films se sont écrits en parallèle, en fait. Et donc, c'était assez intéressant d'écrire un film à la fois sur une cellule djihadiste qui se crée, qui passe à l'acte, d'essayer de pénétrer la psyché de ces gens-là. C'était bien avant tous les événements, donc c'était intéressant. Il fallait que j'écrive de façon complètement intuitive, parce qu'il n'y avait pas le torrent et presque le raz-de-marée d'informations qu'on a eu après les événements de Charlie, de l'hyper-cacher et des 3 policiers assassinés qu'il ne faudrait pas oublier. Et je me retrouvais à écrire ces 2 films en parallèle, et je dirais, autant l'un était sombre, violent, agressif, et c'est une matière à travailler qui n'était pas forcément agréable, ce qui fait que quand je passais sur l'autre, peut-être qu'il a profité de cette envie de faire un film plus délicat, plus aérien, plus sentimental, voilà. Et effectivement, de le gérer en pur film de genre, comme le mélodrame peut l'être, en fait.
Alors, il faut que ce soit très clair, hein, et vous le précisez dès la première page du dossier de presse. Ce n'est pas un remake du film de Melville. Vous n'avez pas acheté les droits du film, seulement les droits du roman. On peut quand même, et c'est pas complètement inutile, se livrer à un petit exercice comparé ou comment on adapte différemment le même texte.
La comparaison de tout à l'heure entre la croyance en Dieu et l'amour, elle ne convient pas du tout. On aime quelqu'un sans preuve, oui, mais c'est grâce à des preuves qu'on sait que cette personne existe.
En somme, vous vous demandez tout le temps si Dieu a l'existence ou s'il ne l'a pas. Dieu ne possède pas l'existence. Dieu est existence. Vous savez, Jéhovah dit, je suis celui qui suis.
C'est un peu comme si on disait X égale X. Ce que je me demandais, après avoir fini Jésus le Christ, c'est si cette existence de Dieu C'est une existence personnelle.
Les êtres humains vous paraissent doués d'une personnalité?
Oui.
D'où viendrait cette personnalité, sinon d'une personnalité supérieure?
Pas forcément. Nous pouvons être un progrès sur des espèces précédentes, non différenciées.
D'où viendrait cette force de progrès? Est-ce que le moins peut engendrer à lui tout seul de plus?
Tout ça, c'est de la scolastique. Peut-être bien que le moins peut engendrer le plus.
Pourquoi voulez-vous avoir des preuves?
Mais parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croie en lui?
En somme, si vous étiez absolument sûr que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante.
Évidemment.
Mais ça va être difficile parce que Dieu n'a pas une existence. Il est existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qu'il se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est.
C'est comme si vous disiez X égale X. Et après?
Mais après rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale, comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence.
Alors, chez Jean-Pierre Melville, c'était Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo. Chez vous, Nicolas Boukrieff, c'est Marine Vacht et Romain Duris. Chez vous, dans les deux cas, pour qu'on y croit à cette histoire, parce que la croyance en Dieu, c'est peut-être simplement une évidence, comme dit Léon Morin, mais croire en ce qu'on voit à l'écran, c'est une autre paire de manches. Il fallait un couple. Un couple qui fonctionne. Comment vous l'avez trouvé, ce couple? Parce que Romain Duris en prêtre, c'est une idée pour moi aussi géniale que Jean-Paul Belmondo en prêtre.
Bah, en fait, simplement en écrivant le texte. C'est intéressant cette comparaison parce que ça raconte un peu les exercices que j'ai dû faire. C'est-à-dire, par moments, j'ai pu garder des dialogues intégralement du livre. C'est un très très beau livre. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que le livre a été totalement occulté par le film. Et donc, beaucoup de gens parlent de Melville. Je dis, mais si je faisais Madame Bovary, vous ne me parleriez pas de Chabrol, de Renoir, de Minelli. Vous me parleriez de Flaubert. Et je trouve ça très injuste pour Béatrice Beck, d'autant que Melville a fait une adaptation à la virgule près. Donc tout le texte de Melville, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est du Béatrix Beck, magnifiquement filmé par Melville. Donc voilà, ça il faut le dire parce que c'est quand même un livre qui mériterait d'être sinon enfin redécouvert, je pense. Après pour ce qui est du casting, mais écoutez, en écrivant en fait, peu à peu la façon dont j'écrivais ce personnage, donc en m'inspirant du livre, en rajoutant des dialogues, en changeant des choses, peu à peu est venu dans ma tête un personnage que je voyais, j'ai envie de dire dansant, souriant, intelligent, malicieux. Aérien. Et peu à peu, je sais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, c'est Romain Duris. Et je le connaissais pas du tout. Mais je trouvais intéressant d'aller lui proposer ce rôle, en fait. Et je l'ai vu le lundi, il m'a dit oui le jeudi. Ce qui est un acteur de ce niveau-là, je me dis, tiens, je pensais qu'il allait mettre 3 semaines à répondre parce qu'ils reçoivent tous ces gens-là. Et il m'a dit non, mais ça fait très longtemps que je vais jouer un prêtre. Donc je l'ai mis au sommet de la pile. Et j'adore ce texte. Ok, on y va. C'était parti. Voilà, ça c'était la première chose. À partir de là, une fois que j'avais Romain, il fallait trouver sa partenaire. Alors là, on est un peu dans, j'ai commencé par le garçon, je suis un peu dans la position d'un père qui rêverait la plus belle et la plus intelligente.
Faire le mariage idéal.
Voilà, exactement. Il faut qu'on rentre dans une espèce de logique complètement intuitive de se dire, il faut que je trouve une partenaire qui fasse le plus beau couple du monde et le plus fluide et le plus évident. Donc là, j'ai fait un casting plus classique, j'ai rencontré une trentaine de comédiennes plus ou moins connues. Et c'est sur l'insistant de Elisabeth Tanner, son agent, qui est un agent qui pour une fois a fait son travail, et de Clément Miseré, un des producteurs, qui aussi pour une fois, j'exagère un peu. Enfin bref, les deux ont insisté pour rencontrer Marine Wright. Je n'avais pas vu Jeune et Jolie de Ozon. J'allais pas le voir pour ce film-là, ça aurait été complètement déplacé et gênant pour moi en fait. Mais j'avais vu son âge, 24 ans. Je me suis dit bon, c'est beaucoup trop jeune. Je pense qu'il y avait quand même un rôle à texte. Marine a un parcours assez atypique. Elle a pas fait le conservatoire. Je disais bon, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, je l'ai rencontré un peu pour la faire plaisir. Et je dois avouer que dès le premier rendez-vous, j'ai été vraiment impressionné par son écoute tout d'abord. Elle a une grande écoute. Et je me suis dit, ah, si elle écoute, elle écoutera son partenaire. Et puis, par son intelligence, son instinct, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Et je vais dire, je suis peut-être pas le premier à le penser, puisque Ozon et Rapneau, au moins, l'ont pensé avant moi. Elle a le truc. Le fameux truc dont on parle quand on tombe sur quelqu'un qui pourrait potentiellement être une star. Je dis ça pour une fois, je peux le dire parce qu'elle n'est pas à côté de moi pendant la promo, mais je veux dire vraiment, elle a un truc très impressionnant. Donc, je me disais, c'est peut-être tentant, je ne fais pas d'essai, moi. Hein. Je rencontre les gens, je bois un café, deux cafés, puis on y va. Et au deuxième café, je me suis dit, allez, je prends ce risque, j'y vais. Et je les ai présentés avec Romain Duris. Ils ont bu un café ensemble, ils se sont plus vus, ils se sont retrouvés sur le tournage, et à partir de là, ils ont commencé à jouer ensemble, et j'ai été proprement stupéfait par leur harmonie.
Et ça marche formidablement parce qu'il y a une façon d'exprimer du désir surgir au milieu d'une conversation théologique qui est tout à fait passionnante. C'est un vrai film d'action aussi, parce que le verbe se fait action, et l'action se fait verbe. On est presque là dans un niveau théologique de mise en scène que je trouve tout à fait passionnant. Merci beaucoup Nicolas Boukrieff. À 15h47 dans Plan Large sur France Culture. C'est un peu plus tôt que d'habitude, on vous dira pourquoi tout à l'heure. C'est le moment de notre petit tour du côté du patrimoine, en partenariat avec l'émission Grand Écran sur LCP, qui diffusera demain à 20h30 Super Size Me de Morgan Spurlock. C'est surtout le moment, si vous écoutez l'émission avec de jeunes personnes, de peut-être les éloigner du poste.
Sais-tu pourquoi je t'ai convoqué ici?
Ça, votre Altesse, on ne peut jamais le savoir à l'avance.
Tu vas le savoir bientôt. Lisa, viens ici. Dis-moi, aimes-tu bien ton serviteur? Très bien, Grosso. Tu remplaceras le vieux qui s'occupait de mon chenil. Et à partir d'aujourd'hui, en plus de celle-ci, je te confie deux autres fonctions. Tueur de mouches et nettoyeur de nos chaussures. Tu comprends? Les chiens, les mouches, les chaussures.
Les chaussures de son Altesse.
Les miennes et celles de ma femme. Alors, répète tes fonctions.
Les chiens, les mouches, les chaussures.
Et on te changera de cellule.
Je remercie votre Altesse pour tout cela.
C'est un extrait de Goto, L'île d'amour, le premier long métrage en prise de vue réelle en 1968 d'un cinéaste plasticien qu'on connaissait à l'époque, surtout pour ses films d'animation et pas encore pour ses films licencieux, pour ne pas dire franchement érotiques. Valerian Borovchek, Borovzik, Brochik, vous le dites comme vous voulez, Boro, est à l'honneur 10 ans après sa mort au Centre Pompidou, qui lui consacre une rétrospective jusqu'au 19 mars. Rétrospective accompagnée d'une très belle édition en coffret DVD Blu-ray de 7 longs métrages restaurés, dont les célèbres Contes Zimoro et La Bête, de très nombreux courts-métrages, et puis à côté une très volumineuse monographie en 456 pages consacrée à Boro. Mathieu Macheret, vous êtes trop jeune pour avoir connu les polémiques autour du sulfureux érotomane à succès. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui ces films?
Eh ben, on les voit d'un tout autre œil. Et si j'étais trop jeune pour connaître ces polémiques, j'étais en tout cas assez vieux au départ pour recevoir une image de Brochik qui n'était pas forcément flatteuse. Hein. C'était celle d'un érotisme frelaté au moment de ses derniers films, celui d'Emmanuel V par exemple, ou de la série Rose qu'il a tournée pour France 3 et qui avait laissé un souvenir quand même assez périssable. Aujourd'hui, on voit surtout Brochik. On voit qu'il y a plusieurs Brochik en fait. C'est ça le plus intéressant. Un animateur prolifique au début de sa carrière, qui était compagnon de route de Chris Marker, un auteur d'allégories politiques avec Goto, L'île d'amour, un adaptateur de fabliaux d'inspiration médiévale pour Blanche, un continuateur de la grande tradition des conteurs grivois de la Renaissance, comme L'Arétin ou Boccace, voire un libertin virevoltant et subversif qui savait retourner l'usage du sexe contre les ordres établis. Autant de visages tournés vers un seul et même motif, celui du désir, d'une énergie libidinale proliférante qui imprègne toute son œuvre, jusque dans ses recoins les moins fréquentables. Il est né Brochik en Pologne en 1923, il est passé par les Beaux-Arts de Cracovie, et il a commencé comme dessinateur d'affiches de cinéma dans les années 50, avant de s'exiler en France, où il réalise la plupart de ses films. Ses premiers films sont voilà en prise de vue réelle, hein, il passe à Goto, L'île d'amour en film live. Ils sont dévoués en premier lieu à sa muse et compagne de l'époque, Ligia Branis. Goto, L'île d'amour, c'est une forteresse totalitaire où des petits mâles se mènent à des rituels assez frappants. Et puis il y a le château féodal de Blanche, où la féminité gracieuse de l'héroïne est une ouverture, une brèche, un courant de fraîcheur et de beauté parmi ces hommes qui sont liés soit dans Goto, qui sont des militaires, ou alors des religieux dans Blanche. Les points de vue sont frontaux, Ces deux univers sont filmés comme des tapisseries ou des miniatures médiévales, hein, c'est-à-dire que les figures se détachent sur des arrière-fonds sans profondeur. Et à partir des contes immoraux, cette célébration de la sensualité, toujours aussi ritualisée, devient en même temps plus joyeuse et éclate dans de nombreuses figures.
Depuis longtemps, j'ai soif et désir de ta bouche, comme un homme égaré dans le désert a besoin d'eau fraîche. Maintenant, rien ne m'en empêche. Je vais contenter mon désir et apaiser ma soif.
Tu vas m'embrasser ? Sur la bouche ?
Je ne vais nullement t'embrasser sur la bouche, comme tu dis de façon fautive. Et tu vas me recevoir dans ta bouche. Comme je t'ai raconté, tu avais l'air de comprendre pourtant que me recevaient les putains de Madame Claude. J'y resterai aussi longtemps que la marée montera. Plus d'une demi-heure. Pendant ce temps, pour t'empêcher de parler distraitement et de me mettre dehors, je t'expliquerai le mécanisme des marées. Tu seras bien attentive à la fois à ce que je ferai dans ta bouche, à ce que je dirai et à la mer qui monte autour de nous, comme monte en moi le désir. À 11h27, très précisément, je me répandrai dans ta bouche. Il est bon que tu saches qu'il n'est pas facile de commander ainsi à soi-même. Et j'ai quelques maîtrises en ce domaine, malgré mon âge qui n'est pas beaucoup plus avancé que le tien. J'aurai donc besoin de recueillement pendant l'opération. Et toi aussi, tu vas te recueillir. Tu penseras intensément à ce que tu voudras. À toi-même, à moi, à quelqu'un que tu aimerais ou à quelque chose dont tu aurais envie. Et surtout, tu essayeras de sentir la progression de mon désir en voie d'accomplissement.
Fabrice Lucchini dans le segment « La marée des contes immoraux » de Valériane Borovtchek. Une sorte de réponse peut-être au conte moraux d'Éric Rohmer ?
Peut-être une réponse, mais c'est quand même très très différent de Rohmer, il faut bien le dire. Dans les contes immoraux, ce qui est assez impressionnant, c'est que la matière est érotisée. Et puis dans les films suivants de Borovtchek, ce seront les objets très importants, mais tout est érotisé au même titre que les corps. Ces objets, on se les accapare, on se frotte sur une rampe d'escalier ou avec un bouton de rose. On détourne l'usage des choses pour en tirer du plaisir et leur forme même devient une invitation à la jouissance. Dans les films de Borovtchek, c'est le monde entier qui est érectile. Ces espaces incertains, à mi-chemin entre réalité et songe humide, ne cessent de se contracter et de se dilater. C'est assez impressionnant. Le sommet de sa carrière a sans doute été atteint avec La Bête en 1975, c'est son film le plus connu, et plus particulièrement sa dernière séquence qui met en scène une jeune nymphette poursuivie dans les bois par un animal velu et pris à pic qui en vient bientôt à la lutiner et dont le membre protubérant, accessoire construit par Borovtchek lui-même, ressemble à une sorte de champignon géant. Le cinéaste atteint alors le sommet d'un art grivois mêlant à la lubricité de la situation une sorte d'exagération comique qui non seulement soulage le sexe de sa gravité, mais n'empêche à aucun moment la projection érotique ou le trouble du spectateur. La bête en question n'a rien de réaliste, elle apparaît par morceaux rapiécés. C'est une chimère, et chimère est vraiment le mot qui convient le mieux au cinéma de Borovtchek, un art de la fragmentation et du manque qui permet toujours à son spectateur de jouer avec les images.
Merci Mathieu Macheret, Valériane Borovtchek au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 19 mars, le coffret DVD Blu-ray, c'est chez Carlotta et la monographie Boro en coédition Friends of Valériane Borovtchek, Le Chineur, Carlotta et les éditions du Centre Pompidou. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Pierre Chevalier et à Nicolas Boukrieff d'être passés nous voir. Je rappelle que La Confession sort mercredi prochain, que le livre Le cinéma de Starfix, c'est chez Hors Collection. Les entretiens avec Pierre Chevalier, L'Homme des Possibles, c'est chez Séguier et Arte, évidemment, Arte Édition. Et sa rétrospective à la Cinémathèque française jusqu'au 20 mars. À la prise de son ce samedi, Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina.
La semaine prochaine, une programmation très Starfix dans Plan Large, puisque nous recevrons aussi bien l'actrice Nathalie Richard que le cinéaste Joe Dante pour deux autoportraits. Mardi, dans La Dispute, on sera autour du secret de la chambre noire de Miss Sloane et de 20th Century Women. Bon week-end à toutes et à tous. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans quelques minutes, Une vie, une œuvre présentée par Irène Omelianenko. Mais auparavant, on retrouve Jacques Bonafé pour une lecture de poètes africains dans le cadre du lancement du Printemps des Poètes qu'accompagne tout ce week-end France Culture.